Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Philippe Manière.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Président de Vallée Solis Communication, auteur du Pangolin et l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Guillaume Poitrinal, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, et vous avez publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Comme vous êtes là, je me suis dit qu'on allait ouvrir quelques articles de la loi Casbarian ensemble.
Bonne idée.
Et avec nous Gilles Raveau. Bonjour Gilles.
Bonjour Monsieur Dose.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, auteur de Économie. On n'a pas tout essayé. Je vous donne les deux, trois éléments factuels, les principaux enseignements de la visite de Xi Jinping sur le terrain économique. Donc il n'y aura pas de rétorsion contre le cognac français. La Chine avait pourtant ouvert une enquête contre Hennessy, Martel et Rémy Martin à la suite de l'enquête européenne ouverte sur les pratiques de la filière automobile chinoise. La filière porcine va pouvoir exporter 10% de plus. Les cosmétiques n'ont pas tenu d'avancer, ils espéraient que les exigences réglementaires imposées par la Chine soient revues à la baisse car ils les considèrent comme un piratage de la propriété intellectuelle. Mais la réalité, c'est que c'est le marché automobile le nerf de la guerre. Nous avons un déficit commercial de 46 milliards d'euros avec la Chine et la voiture électrique est tout simplement en train de gangréner intégralement le marché européen puisque les ventes de voitures électriques chinoises ont pris 76% en 2023 et à la fin de cette année, dans l'ensemble de l'Europe, une voiture électrique sur quatre sera chinoise. Même sans le bonus écolo du gouvernement, la voiture chinoise électrique vaut entre 20 et 30% moins cher que son équivalente française. Bon. Donc ça veut dire que les souhaits de Bruno Le Maire exprimés hier de bâtir un partenariat économique équilibré et solide avec la Chine, mon œil. Monsieur Gilles Raveau, que vous inspire la situation ?
Il y a un autre chiffre qu'on pourrait donner pour compléter votre liste radieuse qui nous met de bonne humeur dès le matin, c'est que sur les voitures électriques vendues en France actuellement, il y en a une sur dix qui est faite en France.
Donc, faite en France.
Qui est faite en France. Voilà. C'est une sur dix parmi les voitures électriques qui est française.
Enfin, produite en France.
Moi, il y a un exercice très simple que je fais avec mes étudiants pour leur faire comprendre l'économie.
Les Toyota vendues en France sont faites en France.
Non, tout à fait. Produites en France, fabriquées en France sur le territoire national.
Oui.
Et donc, moi, mes étudiants, je leur dis, pour comprendre l'économie de façon rapide et à la fois en même temps profonde, je leur dis, voilà, imaginez vraiment que vous êtes Bruno Le Maire. Imaginez vraiment que vous êtes Christine Lagarde. Imaginez vraiment que vous êtes un patron. Imaginez vraiment que vous êtes un salarié, etc. Et là, je me suis dit, imaginons que je sois Xi Jinping. Mmh. Et donc, j'arrive en France et je suis dans ce pays merveilleux. Donc, je dirige une immense dictature. Bon, je recours au travail forcé, j'extermine un petit peu les opposants, des minorités, tout ça. Et j'arrive en France et ce merveilleux pays m'accueille avec, effectivement, me déroule le tapis rouge. Et non seulement j'inonde, effectivement, vous l'avez dit, son marché, comme le reste du marché européen, avec mes produits, qui de toute façon seraient ultra compétitifs, même sans dumping, en raison des écarts de normes sociales et environnementales qui sont bien connus. Et en plus, ce merveilleux pays va utiliser ses impôts pour acheter mes voitures. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on comprenne bien que le fonctionnement, enfin l'écosystème de la voiture électrique en France, c'est je prends de l'argent sur des richesses produites en France, d'une façon ou d'une autre, des impôts, des cotisations sociales, et cet argent, l'État va l'utiliser, et il n'y a pas que l'État, les régions aussi. Il faut voir que les aides à l'achat d'un véhicule électrique, c'est plusieurs milliers d'euros, c'est l'État, les régions.
On a réécrit la grammaire du bonus écologique de la voiture électrique, pour en faire un bonus made in Europe ou made in France et pas made in China, sur des critères verts qui aujourd'hui permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi.
Oui, mais
bon, après, une fois que BYD va construire en Hongrie, ce sera du made in Europe.
Bah oui.
Probablement qu'à ce moment-là, ils seront à nouveau éligibles.
Mais bon,
on a essayé quand même de ne pas être trop débiles.
Après l'avoir été pendant plusieurs années, bon. Et on continue encore massivement à utiliser d'une façon générale l'écosystème, les infrastructures liées à la voiture électrique, qui vont très largement reposer sur des financements publics, vont très majoritairement bénéficier aux entreprises.
Comment on fait alors ? D'accord, ok. On fait comme Trump ? On met 70% de droits de douane, on se prend des mesures de rétorsion, et puis derrière, on dit au consommateur, tu vas payer plus cher.
Ben moi, ce que j'avais jamais vécu, et je trouve quand même impressionnant, c'est que la presse économique capitaliste de ce pays, comme les Échos hier, nous utilise l'expression quand même de la Chine qui va décimer l'industrie européenne. En une du Figaro, vous avez les inquiétudes énormes des industriels français, et je trouve ça assez fascinant, sur le plan politique d'ailleurs, que de voir que ces critiques viennent plutôt de la droite, que la gauche est très largement silencieuse sur le massacre de l'industrie dont il me semble que sur lequel j'alerte depuis des années ici, et que on a ce raccourci fantastique sur vraiment l'effondrement industriel de notre pays. Et alors, moi je vous le dis très 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 gentiment, j'y pense tout le temps, mais je pense qu'il n'y a plus de solution. C'est-à-dire qu'on a trop de retard, on a trop d'écart, on a perdu les compétences. Notre force, c'était les services publics, l'éducation. Au secours, on est un des pires pays. Enfin, je pense que la France, il n'y a plus de solution.
Il faut arrêter la peur.
Guillaume Poitrinal.
Il faut arrêter la peur.
Guillaume Poitrinal. On essaie de rester quand même sur cette
histoire. Il
a prononcé le mot solution. Moi, j'aime bien qu'on essaie de trouver au moins des idées.
Il faut être très clair. Ça fait 50 ans qu'on annonce la mort de l'industrie automobile française. Elle est encore là. On a Stellantis, on a Renault, l'industrie, elle est encore là. Il y a encore des usines en France, malgré beaucoup de choses, et malgré la concurrence internationale,
là, le virage électrique,
à laquelle on a
résisté, quand même.
Mais même une concurrence tout simplement hyper européenne, puisqu'en fait, vous savez que, par exemple, 10% du PIB espagnol, c'est l'industrie automobile. Donc Valladolid, c'est un concurrent de Belfort, du territoire de Belfort, etc. Donc cette industrie, elle est encore là. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui ? Il faut parier sur nos forces. Quelle est la force de la France ? La force de la France, c'est assez simple, c'est qu'elle a le mix énergétique le moins carboné du monde. Donc elle produit des voitures avec un bilan carbone de production de la voiture qui est le plus faible du monde. Mais qui le sait ? Aujourd'hui, je sais combien ma voiture va consommer. Je sais que si c'est une voiture électrique, elle va consommer plus ou moins. Est-ce que je connais aujourd'hui le bilan carbone, l'empreinte carbone de mon véhicule ?
Mais Guillaume, combien de personnes vont arbitrer leur choix sur le bilan
mais déjà
carbone
qu'on
de
leur
la voiture
dise, mais déjà, ouais. Qu'on leur dise. Pourquoi ? Parce que les gens...
Tu compares deux véhicules identiques à Stellantis.
Il y a des gens qui sont sincèrement concernés par le climat. Il y a des gens qui sont sincèrement concernés par le climat, monsieur Dose.
Oui,
tout le monde n'est pas à regarder le portefeuille tous les jours. Il y a des gens qui sont sincèrement concernés par le climat.
Il y a des gens qui ont les moyens d'être concernés par le climat.
Il y a des gens qui ont les moyens.
Et puis, il y a des jeunes qui s'enchaînent sur le périph' parce qu'ils sont sincèrement concernés par le climat. Mais... Il y a des jeunes qui ne prennent plus l'avion. Ça existe aussi.
Oui.
Il faut arrêter de penser qu'on est un prototype unique de gens qui sont l'homo economicus et qui veulent absolument consommer le moins cher possible et n'importe comment. Il y a, je pense, aujourd'hui, une véritable mutation qu'on sous-estime très largement. Et il faut que la France, elle ait son étiquetage carbone de tous les
produits. Je sais que vous y tenez énormément, mais celui qui peut se permettre d'arbitrer sur l'étiquetage carbone, c'est qu'il en a les moyen. J'ai regardé la différence. Juste un exemple. Un SUV chinois, l'équivalent en termes d'options, de qualité, le SUV Stellantis, qui en plus va bénéficier des moins 4 000 euros, voire les moins 7 000 pour les plus démunis de bonus. T'as 4 000, 5 000 balles d'écart à la fin entre le chinois et le français. Oh, ben l'empreinte carbone ne va pas être bonne, mais je suis désolé, 5 000 moins.
Non, mais moi, je veux dire, il faut peut-être la taxer.
J'ai envie de dire à Philippe de revenir. Je ne sais pas pourquoi, mais Philippe m'écrit matinée bolchevique. J'ai pas l'impression que le plateau que nous sommes soit un plateau bolchevique.
Non, mais c'est parce que c'est Gilles qui avait commencé.
Ah, mais c'est ça, voilà. Reviens.
Moi, je voudrais quand même nuancer un petit peu ce que vous dites, Nicolas, sur l'hypersensibilité au prix. C'est un fait. On est des homo economicus. Toute la science économique repose là-dessus.
Français,
et
là.
Tous, en tant que producteurs, en tant qu'acheteurs, on a comme élément principal de nos critères de choix le prix. Mais pas que. Parce que permettez-moi de vous dire que s'il y avait que, il n'y aurait pas d'industrie automobile allemande. Il est évident que l'industrie automobile allemande ne prospère pas sur les qualités objectives des véhicules qu'elle produit, mais sur le statut qui s'attache, pour des raisons que je trouve personnellement complètement ridicules, mais il y a des tas de gens qui trouvent ça respectable. Je respecte le goût des autres. Ils trouvent que c'est mieux d'avoir une BM que d'avoir une Peugeot. Moi, ça m'est complètement égal. Je constate simplement que ça fait 50 ans que l'industrie automobile allemande prospère à 95% sur des éléments extra-monétaires,
c'est vrai,
extra-price.
De Schalita,
on n'achète pas une BM parce qu'elle est pas chère. On on achète une BM parce que comme ça on peut dire qu'on a une BM.
Et Amazon,
donc ça veut dire pour reprendre ce que disait à l'instant Guillaume, il est vrai que le prix compte, mais il n'y a pas que le prix. Donc moi je pense que là pour le coup, je ne prétends pas comme Guillaume comprendre et connaître les jeunes gens, mais il me semble malgré tout qu'il y a une évolution.
C'est un tort, mon cher monsieur Maillère.
Guillaume, je ne dis pas que je ne les connais pas, je dis que je ne prétends pas les connaître. Non, j'avoue que je ne les connais pas parce que c'est impossible de connaître les gens qui ont 40 ans de différence ou 20 ans de différence avec vous. Cela dit, on constate aujourd'hui que tout ce qui pouvait exciter les jeunes gens des années, disons, de baby-boom, c'est-à-dire je vais pouvoir accéder au statut, etc. Bon, ça existe encore dans la mode, hein, mais ça n'existe plus vraiment, me semble-t-il, dans la voiture. Et donc, on peut tout à fait imaginer que ce qu'on a vu il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire des gens qui achetaient des voitures sans, d'une manière irrationnelle, juste parce qu'il y avait le logo Bayerische Motorwerke ou le logo, je sais pas quoi, Mercedes, bah, ils vont acheter demain, comme le suggère Guillaume, une voiture, je sais pas quoi, Stellantis ou Renault, parce que on sait qu'elle aura été faite avec de l'énergie bas carbone. Je ne suis personnellement ni pour ni contre. J'ai toujours considéré que les gens faisaient bien ce qu'ils voulaient, que c'était la marque des pays libres. Je dis simplement que l'hypothèse de Guillaume selon laquelle on pourrait capitaliser sur cet avantage comparatif n'est pas une hypothèse absurde, puisqu'on a déjà vu dans le passé la même distorsion absurde du point de vue économique, mais constaté dans le choix des gens, d'un choix qui ne se portait pas sur les produits les moins chers.
Il faudrait savoir quel est le pourcentage de gens qui achètent avant tout, qui achètent d'abord un prix avant d'acheter un produit. Regardez l'histoire du style français, ben
On est dans le pays du luxe. Moi, c'est pareil, je trouve ça ridicule d'acheter quelque chose beaucoup plus cher que sa valeur d'usage. Mais c'est mon goût. J'observe que les gens trouvent ça bien. Donc, vous vivez dans un pays qui vit en grande partie de la prospérité d'un secteur qui vous propose tout sauf le prix. Le prix n'est plus un choix, un critère de choix pour, évidemment, les gens
le
qui achètent des
français.
Produits FMH, Hermès,
ben, Le prix n'est plus un critère de choix.
Non, je ne dis pas pour tout le monde. Je dis qu'il y a des gens qui prospèrent sur le fait qu'il y a une clientèle considérable et très solvable qui achète autre chose que le rapport qualité-prix. Voilà ce que je dis.
Bon, Gilles.
Je voudrais quand même rappeler, je vais faire mon petit moment histoire de la pensée.
Bolchevique.
Ouais, voilà, bolchevique, tout ce que vous voulez. Non, mais je voudrais rappeler.
Moi, j'étais semi-bolchevique, là.
Que un point commun des mes chers auteurs Smith, Ricardo, Marx et Keynes, Schumpeter, c'est que l'économie, c'est de la production. Et que le choix du consommateur est très très secondaire par rapport aux choix que sont faits par les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent le monde, ce sont les entreprises qui proposent des objets, ce sont les entreprises qui structurent l'espace, qui structurent même notre imaginaire. Et pour reprendre l'exemple de l'automobile, oui, Stellantis existe, mais un des drames de notre chère petite France, c'est l'Union Européenne. Et là, justement, les chiffres sont sortis. Il y a 10 ans, on avait un excédent commercial de 2 milliards d'euros par an avec les pays d'Europe centrale et orientale. Et maintenant, nous avons un déficit commercial de 10 milliards d'euros par an. Vous serez ravis d'apprendre que les filiales françaises de groupes français sont le troisième employeur de Pologne. Je pense que ça va vous faire très plaisir, effectivement, d'apprendre ça. Et voilà. Et Tant mieux pour les Polonais.
On va pas revenir en arrière, mais c'était une connerie d'étendre aussi vite l'Europe. On est tous d'accord là-dessus. Quand j'entends aujourd'hui qu'on veut encore étendre l'Europe.
Ne dis pas qu'on est tous d'accord, parce que moi, je suis pas tellement d'accord là-dessus. Je pense que c'était une nécessité géopolitique et plutôt un bienfait économique.
La France bénéficie
aujourd'hui de ce que la Pologne soit prospère.
On aurait pu faire une union douanière, une union économique, mais aujourd'hui, le problème, le manque d'union politique en Europe, il est criant, il est manifeste. Et c'est un des sujets.
Un autre sujet.
Avec la Chine. Parce que si tu veux peser avec la Chine, si tu veux, il faudrait un président, une présidente de l'Union européenne qui soit capable, pour le coup, de décider et de peser. La réalité, c'est que, en fait.
Ça, c'est fantasmatique.
On va pas ouvrir le débat sur la puissance.
Parce que moi, comme je suis un modeste économiste, ce que je dis à chaque fois que Nicolas Dose a la très grande gentillesse de m'inviter, c'est que je ne vois pas, et encore une fois, j'y pense tous les jours, sérieusement, comment la France, avec notre structure de coûts, avec maintenant l'état de nos services publics, peut être compétitive au sein de l'Union européenne. Je ne vois pas. Et je vois des très très bonnes raisons pour lesquelles notre industrie de façon structurelle est en train de s'effondrer. Et justement, je rappelle l'exemple de l'industrie de l'usine BID, Build Your Dreams, BYD, qui va en Hongrie où le coût du travail est le tiers de chez nous. Les Hongrois, ils savent lire comme nous, ils utilisent les mêmes machines que nous, ils sont aussi compétitifs. Mais expliquez-moi comment on arrive à un point absolument critique.
Sur ce sujet, moi je fais partie comme Gilles. Des gens qui ont déploré à de très nombreuses reprises à ce plateau et ailleurs la disparition dans un silence assourdissant d'une grande partie de l'industrie française. Donc oui, l'industrie a des caractéristiques en termes de potentiel de gain de productivité, en termes de capacité à bien rémunérer les gens, en termes d'innovation, etc., qui la rendait plus précieuse que ce qu'on imaginait. On l'a sacrifié de manière un peu légère. Le phénomène est assez largement derrière nous maintenant, donc on peut essayer de refaire le passé, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que c'est assez largement derrière nous. Cela dit,
toute la politique économique du gouvernement, c'est la réindustrialisation.
Aujourd'hui, on l'a déjà beaucoup vécu. Moi, cette histoire de Chinois qui envahissent le monde, les États-Unis et l'Europe occidentale, ça me rappelle quand même furieusement l'histoire des Japonais qui envahissaient le monde. Rappelez-vous, les États-Unis tremblaient. On se demandait s'ils n'allaient pas se faire dépasser par le Japon. On pensait que l'industrie automobile américaine allait mourir sous les coups de boutoir de l'industrie japonaise. Toyota, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Toyota et les Nissan, d'ailleurs comme les BMW et les Mercedes, il n'y a que les Français qui n'ont pas réussi ça, ont exporté, puis ont fini par produire aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous avez en Caroline, vous avez dans une grande partie des États-Unis, des marques étrangères qui procurent localement de l'emploi, de l'innovation, des emplois à forte valeur ajoutée. Voilà. Donc, l'histoire, elle n'est pas terminée. Et ce renouvellement, l'arrivée de nouveaux producteurs sur notre sol. Quand vous dites, par exemple, BYD en Hongrie, ah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être terrible. Je suis d'accord, dans un premier temps. J'allais dire, c'est flippant, passez-moi l'expression. Mais à terme, ça va faire quoi? Ça va faire ce qu'on a déjà. C'est-à-dire, ça va faire Toyota qui fait des Yaris dans le Nord. Et qui peut pleurer? Qui peut aujourd'hui dire que c'est une mauvaise chose que Toyota fasse des Yaris dans le Nord de la France? C'est évidemment un bienfait pour la France. Donc, ne pleurons pas. On a malheureusement besoin de l'investissement de ces gens-là, puisqu'on n'est même pas foutu d'orienter notre épargne dans notre pays.
Vous dites qu'on a besoin de la
vie. Ils ne vont pas venir chez nous, justement.
Bon, un bémol quand même.
Toyota est venu.
Philippe, sur la comparaison. Effectivement, on peut faire
entièrement d'accord.
La comparaison avec l'histoire du Japon il y a quelques années, ça tient intellectuellement la route, et même d'ailleurs dans l'examen des faits. Là, on est quand même devant une bascule systémique. On passe du thermique à l'électrique, avec une date butoir à 2035 où on ne vend plus un seul moteur thermique en Europe.
Moi, je ne suis pas sûr que la date butoir, on la révise pas.
Moi non plus. Mais devant une bascule.
La bouffonnerie a fini par être un tout petit peu éventée.
Mais devant une bascule systémique comme celle-là, compte tenu de l'avance incroyable des Chinois en matière de voitures électriques,
c'est une avance.
BYD, c'est une boîte qui a 20 ans.
C'est une avance, mais c'est une avance qui, à mon avis, n'est pas... Alors, je ne suis pas du tout un technicien, mais ce que je comprends, pour en avoir parlé avec un certain nombre de personnes, et je pense que ça ressortit aussi au bon sens, c'est pas une avance qui est aussi difficile à rattraper que, par exemple, sur l'automobile thermique d'avant. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, une voiture électrique, c'est assez simple en termes de conception. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pièces. Le différentiel que vous pouvez obtenir par un moteur d'une hyper qualité qui est roulé sous les selles en Bavière profonde ou sur les côtes japonaises, il est aboli par l'électrique. L'électrique, vous avez un couple énorme, vous appuyez sur le truc, ça avance. Enfin, je veux dire, la voiture électrique, c'est pas rocket science, si je peux me permettre.
Non, mais je suis d'accord.
Je pense que c'est plus dur pour les incumbents, passez-moi cet anglicisme, pour les gens qui avaient une très grosse industrie dans l'ancienne technologie, tous les constructeurs automobiles du monde, donc les Français en particulier, c'est plus dur de basculer dans quelque chose de nouveau, ça c'est bien établi, c'est pas les marchands de calèche qui ont fait des voitures. Mais en même temps, quand on veut passer dans l'électrique, oui, il y a beaucoup d'investissements à faire, mais il n'y a pas de barrière technologique insurmontable. Donc moi je pense que ce que fait BYD, les Stellantis et les Renault sont évidemment infiniment capables de le faire. Le problème c'est, est-ce qu'on a raison de leur demander de le faire à coup de fouet à la vitesse de l'éclair? Ça se discute à mon avis. Mais je crois pas que les Chinois viennent avec une technologie de la mort qui tue qui va nous mettre au tapis, parce que c'est une technologie, vous allez dire, dans le fond assez banale.
La Cour des comptes européenne a considéré qu'il est faut peut-être se poser la question de la date de 2035 pour savoir si c'est bon. Il y a une clause de revoyure, je crois, sur cette date.
Rappelez-vous ce que disait Tavares dès le départ. Hein, oui, il avait raison.
Oui, mais vous avez vu ce qu'a dit Luca de Meo. Je pensais comme Carlos Tavares, mais maintenant qu'on nous a envoyé en 2035, on nous change pas le cap, quoi, parce que aucun de vous n'a prononcé le mot droit de douane parmi les solutions. Hein.
On n'a pas la maîtrise des droits de douane, on est dans l'Union européenne.
D'abord, on est dans l'Union européenne, on a des accords commerciaux, et puis après, je ne pense pas que ce soit le repli sur soi que soit la solution.
Non.
Il faut honnêtement, très honnêtement, taxer les produits qui sont issus du charbon. Jean Covici l'a encore dit l'autre jour dans le truc, un produit produit en Chine est un produit toxique pour la planète parce qu'il est issu d'énergies qui sont issues largement du charbon. Donc nous, on a encore cet avantage compétitif aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut faire valoir, et donc il faut en effet une taxe sur le carbone ajouté sur chaque produit. C'est urgent, c'est nécessaire, ça va réindustrialiser la France.
C'est juste infaisable.
Comment
on taxe le charbon des Chinois? Vous pouvez m'expliquer?
Mais on taxe, c'est tout ça, c'est assez simple. Et on taxe l'empreinte carbone du véhicule une fois qu'il passe la frontière.
Mais comment vous la connaissez?
On la connaît parce qu'on connaît le mix énergétique.
Comment vous obtenez l'assentiment de nos partenaires commerciaux? Là, pour le coup, moi, je suis ni pour ni contre le cognac, ça me paraît parfaitement du bon ordre. Mais si vous commencez à taxer les voitures sur le charbon,
nous avons une taxe carbone aux frontières. Elle existe. aux frontières de l'Europe. Elle existe, d'accord ?
On a mis en place...
Elle rapporte rien d'ailleurs, puisqu'elle est en période de test.
Oui, la contribution d'ajustement.
Mais cette taxe, alors, elle n'est hélas que sur les matières premières, elle est partielle, etc.
Elle n'est pas sur les produits finis.
Mais on peut la mettre demain sur les produits finis, il n'y a aucun problème.
Mais vous voyez bien qu'on va rentrer dans un truc de corne-cul. Typiquement, si j'étais BYD, votre taxe, elle existe. Je suis BYD, je m'installe à côté d'une centrale nucléaire en Chine, et je dis, moi, je n'ai pas le mix chinois, je prends directement du non-carboné.
Pourquoi pas ?
Donc vous allez avoir... Moi, je pense qu'en termes d'exécution...
Pourquoi pas ? Mais au moins, cet énorme drame qui fait que 40% de nos émissions aujourd'hui, c'est le charbon, 40%. Vous vous rendez compte ? On arrête le charbon, on arrête quasiment le drame du réchauffement climatique. Donc on n'a plus besoin d'aller dire, etc., bonjour, vous allez vous surprotéger du froid, vous allez faire ceci, la prime rénov', tout ce que ça nous coûte aujourd'hui le réchauffement climatique.
Arrête le charbon, ça serait la solution, bien sûr.
On arrête le charbon,
Gilles, possible. On a 1:07 et on marque une pause.
Je suis de très mauvaise humeur ce matin, je me permets...
De très 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 mauvaise humeur ce matin.
Voilà, exactement, en plus c'est Paris, il y a plein de Parisiens et c'est insupportable.
Non, il n'y a plus personne.
Il y a surtout des Chinois pour le moment.
Bon, allez, monsieur Manière, je pense que votre temps de parole est... écoulé, si je peux me permettre de faire mon petit Alain Duhamel. Conseil de lecture.
Oui.
Un des livres qui va changer votre vision du monde. Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Historien des sciences, des techniques et du travail, qui vous raconte deux siècles d'innovation technologique et qui vous montre qu'il n'y a jamais eu de transition dans l'histoire de l'humanité, que les sources d'énergie, les matières premières se sont toujours ajoutées les unes aux autres, qu'il y a des symbioses, il y a des chapitres extraordinaires où il vous montre que pendant la révolution industrielle, on a tous appris comme étudiants, et j'ai tous enseigné comme enseignant, que la révolution industrielle, c'est le charbon remplace le bois. Et bien il dit, c'est exactement l'inverse. Pour ce thème, monsieur Manière, merci beaucoup. Le développement des mines de charbon nécessite, il nous dit, au début des mines de charbon, on voyait ça avec des quantités de bois à l'extérieur pour étayer, etc. C'est absolument passionnant. Il y a de l'histoire sociale, il y a de l'histoire du travail, l'histoire des techniques. Lisez Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Et comme ça, vous pourrez manger de la bidoche et prendre l'avion sans aucune culpabilité, parce que vous comprendrez les raisons profondes pour lesquelles l'effondrement est absolument inévitable.
J'ai lu Éric Coquerel.
Heureusement qu'il est évitable, l'effondrement.
J'ai lu Éric Coquerel dans les colonnes des Échos. Il veut qu'on monte les impôts. Il veut que la France se finance non plus sur les marchés, mais auprès de la BCE. Et qu'on nationalise Total Energy si l'entreprise confirme sa volonté de s'implanter à Wall Street.
C'est lunaire.
C'est dans les Échos. Allez, à tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.